Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est la Libre Antenne jusqu'à 1h du matin. Si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et vous pouvez donc composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute pour nous joindre et peut-être échanger avec moi. Ce sera un réel plaisir. Pour le moment, nous accueillons Cécile au 39-21. Bonsoir Cécile. Cécile ?
Oui, je suis là.
Oui,
tu m'entends ?
Oui,
oui, je suis là. Tu m'entends ?
Oui, je vous entends.
Ah, bon, à une époque, on se tutoyait quand on avait fait dans les yeux d'Olivier.
Oui, alors on se tutoyait, mais hors antenne.
D'accord, ok, très bien.
vous avez fait dans les yeux d'Olivier il y a un moment maintenant. Hein.
Oui, c'est ça.
Vous pouvez
et ça fait un sacré moment, d'ailleurs, je me demandais la date. Alors, je ne sais pas, il y a un écho, je ne sais pas si c'est normal.
C'est peut-être parce que vous avez votre radio de branché.
Il me semble pas.
Ou peut-être
pas.
Votre haut-parleur. Vous êtes sur haut-parleur ?
Non, pas du tout, de haut-parleur. Bon, ce n'est pas grave, si vous ne m'entendez pas en écho, c'est très bien.
Non, moi, je vous entends très bien. Non. On Parfait. S'était donc rencontrés dans le cadre donc, du tournage dans les yeux d'Olivier. Vous aviez été victime, vous étiez l'une des victimes d'un violent en série qui se présentait comme le masseur des stars, hein, c'est ça ?
Tout à fait.
Vous pouvez, pour celles et ceux qui ne connaissent pas votre histoire, la raconter, s'il vous plaît ?
Simplement, en fait, un jour, j'étais au travail et je reçois un appel de la police nationale qui me dit, me pose trois questions, en fait. Bon, moi, sur le moment, je me disais, il me pose des questions, donc je me dis, la police nationale, c'est quelque chose qui, il y a quelque chose qui va pas, hein, il y a quelque chose qui joue pas. Je me dis, c'est un canular, donc je leur demande, un numéro, je pourrais les rappeler, et effectivement, je tombe bien sur la police nationale à Nice, et le commandant Brex, donc j'ai nommé comme ça dans mon livre, bien sûr, j'ai changé tous les noms. Me pose trois questions. Effectivement, en posant trois questions et ces trois questions lors du procès, quand les témoins témoigneront, deviendront des présumés victimes à ces trois questions. Donc, la première, est-ce que vous connaissez Monsieur Intel, que j'ai nommé l'autre ? Ensuite, est-ce que vous avez bu quelque chose en sa présence, ta mère ? Et la troisième question, vous a-t-il massé ? Et quand vous répondez en fait à ces trois questions, il s'avère que vous êtes potentiellement une présumée victime. Donc je dis présumé parce qu'en France, tant que vous n'avez pas le verdict de la justice, vous êtes présumé victime et présumé agresseur.
D'accord.
Après, je décide de porter plainte, forcément.
Mmh.
Et le procès, en fait, c'est vrai que ça a fait un effet assez incroyable. Parce qu'en fait, l'appel de la police, en fait, je ne me souvenais plus de cette soirée avec lui. Hein. Et en fait, 7 mois s'écoulaient. J'étais dans ma vie de rêve dont j'avais rêvé quand j'étais petite, comédienne, actrice. Et je vivais donc, comme on peut dire, intermittente du spectacle. Et pour autant, ça allait pas. J'étais un peu en autodestruction. Je déprimais. Je faisais des cauchemars. Je me disais qu'il y avait un truc qui jouait pas.
Oui.
Et du coup, j'ai compris à ce moment-là avec l'appel de la police. Et en fait, si vous voulez, c'est que 7 mois plus tôt, il y a deux souvenirs qui me reviennent. Tel un boomerang, j'appelle ça l'effet boomerang, dans le sens où, en fait, deux seuls souvenirs me reviendront. C'est un peu comme si ma mémoire, j'envoyais un boomerang avec la mémoire de ces 7 mois qui me revenait en plein visage avec beaucoup de violence, avec deux souvenirs, donc d'être dans le lit nu. De prise de soubresaut étant frigorifié, puis après j'ai très chaud et je bois un verre et je me souviendrai que de cela. Et on n'en saura jamais plus d'ailleurs. Même 20 ans plus tard, je ne saurai jamais, mais bon, ça fait très longtemps maintenant que pour moi ça n'a plus vraiment d'importance tout ça en fait.
D'accord.
Vous appelez la résilience.
Oui, on avait à l'époque parlé de cette résilience, mais vous n'en étiez pas au niveau où vous en êtes aujourd'hui.
C'est sûr. Mais en fait, j'ai un oubli dans les yeux d'Olivier. J'arrive pas à resituer au niveau de la date. Hein, c'était quoi ? C'était en 2000, vous vous souvenez ou pas ?
Il y a bien 10 ans. Hein. qu'on a tourné 10 ans,
ouais, 13 ans. Ouais, hein. Ouais. Et donc le procès, le procès avait eu lieu. Ok.
Je pense, hein.
Oui, oui. Ouais, ça fait 10-15 ans même.
Ouais, oui, je pense.
Ok. Donc oui, il y a beaucoup de temps qui se sont écoulés. Hein. Les faits, c'était en 2003, on est en 2023, donc le temps passe vite quand même.
Oui, oui.
Et donc, oui.
Comment est-ce que vous allez aujourd'hui?
Je vais plutôt bien. Ouais. Assez rapidement, j'ai été assez vite bien, en fait. Après, il y a les aléas de la vie, les périodes qu'on rencontre qui peuvent être difficiles, mais ça, c'est commun à chacun, en fait. Mais si vous voulez, la première chose que je me suis dite à l'époque, et même ce que je pourrais dire maintenant, on dit la reconstruction se passe à partir du moment qu'on a terminé un procès. Et moi, je me dis, en fait, le conseil que je peux donner, voilà, si je peux me permettre, voilà, la reconstruction ne doit pas commencer le jour de la fin du procès, elle doit commencer tout de suite. Hein. Parce qu'en fait, on est comme, je trouve, dans une société où c'est pas un jugement, hein, c'est un peu une réalité de ce que je vois sur les réseaux sociaux et des personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est un peu dans la société de la survictimisation. Et en fait, la victime, si elle peut s'en sortir, quelque part, c'est de prendre la responsabilité de sa vie.
Oui.
Et de prendre la décision de s'en sortir. Et si, alors, ce que les associations font de très bien, comme l'INAVEM et France Victime, où ça fait 20 ans qu'on se connaît, où on a fait pas mal de choses ensemble. Et maintenant, il faut savoir aussi que donc, dans les accompagnants, les associations de victimes peuvent vraiment accompagner les victimes, mais vraiment de A à Z, hein, que ça soit au niveau de dépôt de plainte, que ça soit du suivi psy, etc. Donc, ce qu'il n'y avait pas forcément à mon époque, ça démarrait, en fait. Hein. Donc, la résilience, ça passe par ça aussi, par les accompagnants, les personnes qui nous accompagnent, qui nous aident à sortir du noir et l'agression, enfin de la noirceur de l'agresseur. Et à partir du moment où vous dites, moi, si je dois continuer à vivre, c'est de vivre heureux. Donc, c'est [S2] Oui. [S1] La décision que j'ai prise dans le cabinet de mon psy. Bah d'ailleurs, c'est assez marrant parce que je revenais du procès, autant un procès, cette journée d'assises, c'est carrément incroyablement violent, en fait. C'est, bon, clairement, moi, j'avais plus envie de vivre et je comprends que des gens puissent passer à l'acte, hein, puissent être suicidaires parce qu'on peut être dans des états tellement de douleur extrême que quel est l'intérêt de continuer. Et en fait, mais bon, moi, c'est pas trop mon genre, enfin, c'est pas... mais après on peut tomber dans des destructions qui sont aussi des suicides lents. Et le but c'était de tomber dans rien de cela. Donc c'était rigolo parce que dans le cabinet de mon petit, donc le téléphone sonne et il parle à un de ses collègues qui est assez désespéré, anxieux, qui dit voilà, je sais pas, j'ai mon patient, je sais pas comment l'aider là, ça va pas du tout et il est au bord du gouffre, du suicide. Il lui dit écoute, une chose est simple, si tu veux l'aider, la seule chose à faire, voilà, c'est de rester calme et de ne pas être anxieux. Et la décision, c'est à lui de la prendre. Donc, en fait, je ne sais pas si c'était fait exprès ou si c'est un signe de la vie qui m'a été envoyé. Donc, je suis rentrée chez moi. Pendant cette journée, j'ai réfléchi, mais vraiment intensément à tout ça.
Oui.
Et donc, c'est là que j'ai décidé de me dire, bon, si je vais continuer à vivre, ça serait en étant heureuse. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la première décision. Elle est hyper importante, en fait. Et c'est ça qui a déterminé toute la suite, et avec les objectifs aussi.
Et comment ça s'est mis en place, tout ça?
Ça s'est mis en place, alors, ouais, parce qu'il y a les mots, puis il y a la réalité de la vie, et puis techniquement, c'est vrai que c'est parfois complexe. Hein. Ça s'est mis en place, c'est vrai qu'à un moment donné, à cette période-là, alors que je sortais énormément, bah là, j'avais plus trop envie de sortir. Hein, quand ça devient difficile de prendre le métro, de oui. discuter avec les gens... Je ne supporte plus l'odeur des gens, les regards, etc. Donc, ça devient vite l'enfer. En sortant de ce procès, hein, c'est tellement violent. Donc, c'est venu une fois, un copain m'appelle, me dit « Viens, une soirée ». Et puis, j'étais une soirée, il était DJ. Et puis voilà, je me suis assise, j'ai bu un petit verre de vin rouge. Voilà. Et une musique qui passait relax. Et là, j'ai un moment où je me suis sentie mais super bien, un petit moment de bonheur, de joie. Et je me suis dit « Ok, c'est bon ». Et c'est là que ça a démarré. C'est un peu avoir des petits moments de bonheur comme ça, les créer ou les vivre intensément.
Oui.
C'est un peu l'idée de quand il fait noir dans la nuit et puis vous avez ces villes éclairées et puis avec toutes ces lumières et ces plein de petites lumières que vous allumez. Et après, bah, le noir, il n'existe plus. C'est vraiment ce que vous avez créé tout simplement intense, palpitant ou simple, qui font que ça remplace ce que vous avez subi, en fait. Et il y avait une chose aussi qui était très importante, c'est que moi, je ne voulais pas être sous la proie de mon agresseur,
Oui.
enfin, une seconde fois, par la pensée et dans le temps. Parce que si on regarde une agression, elle a à un moment donné, un instant T, et une fois que l'agression est passée, c'est terminé. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais ressasser 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans une agression. C'est un moment donné, et après, ben, c'est terminé. Donc, pour moi, c'est important de passer à autre chose. Et qu'il n'ait pas d'emprise sur moi, en fait. D'emprise sur moi par la pensée, ou moi, en générant des pensées, en m'accrochant à lui, quoi, en fait.
Oui, bien évidemment, il n'a jamais essayé de vous recontacter, parce que vous avez été quand même assez active, quand même. Vous avez fait Dans les yeux d'Olivier, vous avez fait d'autres choses quand même, on vous a vu un petit peu. Est-ce qu'il a essayé de vous recontacter, cet agresseur?
Il n'a pas le droit.
Il n'a pas le droit, d'accord.
Ah non, il y a un procès. C'est vrai que j'étais très active, et ben ça fait partie de la résilience par rapport. Mais bon, le livre que j'ai écrit, dont les journalistes m'ont vraiment bien accueilli, m'ont donné l'opportunité vraiment de pouvoir parler de. Justement de mon histoire, mais en fait, si on regarde les interviews, je parle pas de lui, en fait. C'est pas pour me venger de lui, je parle justement des personnes, là, comment reconstruire sa vie, la résilience, etc. Et c'est vrai que la résilience, ça a été aussi ça, c'est d'avoir un livre, un objectif, où quand vous écrivez matin et soir, à 5 heures du matin, vous vous levez. Le soir, vous couchez, vous avez écrit juste avant, au boulot, vous écrivez sur des petits bouts de papier, et puis comme ça, pendant des semaines, des mois, des années, vous arrivez à 80% de votre bouquin. Et ben ça, c'était un gros objectif hein, qui m'a fait me lever tous les matins. Et puis évidemment, quand j'ai trouvé à pouvoir le faire éditer, et que j'ai pu faire toutes les interviews effectivement que j'ai faites avec les différents médias, ben, c'était des grands moments de joie, hein, vraiment, et de bonheur. Et ça a contribué vraiment à la résilience, à mon chemin de résilience.
Vous allez le 28 et le 29 janvier prochain participer à une conférence à La Rochelle.
Oui. Oui.
Tous les intervenants ont traversé une épreuve ou un défi de la vie et vous allez partager tous votre histoire et explorer des pistes pour se reconstruire et aller mieux. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait avant ou ça va être la première fois ?
Non, bah, j'ai eu la chance avec France Victime de faire une conférence à l'Hôtel de Ville. À l'époque, j'ai déjà eu fait des conférences, mais là, c'est vrai que c'est différent parce qu'on est plusieurs interlocuteurs et puis on a une mission, on a une envie commune, c'est redonner des choses aux gens et les aider à se transformer ou à trouver un chemin et s'ils trouvent des clés ou des choses pour trouver le bonheur dans leur vie ou plus, ça sera gagné en fait.
Vous parlez comment aujourd'hui de tout ça avec un certain détachement ou en parler vous ramène toujours à ce que vous avez vécu avec cet homme?
Ah mais alors, pas du tout. Dis, moi, depuis le début, je me suis toujours dit, je ne veux pas être sous son emprise et mon mental n'ira jamais dans ce sens. Je lui ai toujours interdit et j'ai remplacé les mauvaises choses par des belles choses. Donc, moi, ma vie, j'ai tout reconstruite. Et en fait, ce qui est assez étonnant, vous savez, quand vous vivez le paroxysme de la souffrance, de la douleur, vous êtes à même de pouvoir vivre le paroxysme de la joie et du bonheur. Donc, moi, je regarde toujours que le positif. Après, c'est peut-être ma personnalité. Je suis quelqu'un comme ça d'optimiste et qui regarde le positif. Et c'est vrai que quand j'en parle, ce que je peux dire, c'est que ça ne me fait pas plus d'effet qu'aller acheter ma baguette de pain à la boulangerie d'à côté. Même si je mange pas de pain, mais voilà, ça a vraiment aucun impact sur moi. Alors après, c'est vrai que si je fais une conférence ou que je vais travailler plusieurs semaines sur quelque chose lié au livre, au sujet, il est probable quand même qu'inconsciemment, ça puisse faire des choses à un moment donné parce que j'ai pas la mémoire de rien du tout en fait. Donc le corps, il a quand même une mémoire et l'inconscient, il a une mémoire que moi, je n'ai pas.
D'accord. Très bien, mais écoutez, je vois que vous allez encore mieux que quand je vous avais croisé il y a une dizaine d'années, Cécile.
Oui, super bien.
Ouais. Bravo. Mmh. Et puis, écoutez, pour celles et ceux qui veulent vous rencontrer, vous serez les 28 et 29 janvier à La Rochelle. Où est-ce que ça se passe?
Alors, ça se passe à l'espace Encamp, en fait. Et si jamais, il y a aussi toutes les informations, je voulais offrir mon livre pour ceux qui souhaiteraient dans mon groupe Bye Bye l'anxiété. Et dans le groupe Bye Bye l'anxiété, il y a aussi il y aura les informations sur la conférence de La Rochelle.
D'accord, très bien. Écoutez, le 28 et 29, si vous avez envie d'en savoir plus sur Cécile, il y aura d'autres intervenants hein, qui auront tous traversé.
C'est participatif en plus, les entrées.
Je trouve que c'est super comme initiative en plus. Ça permet de confronter vraiment les avis, ce qu'on a pu mettre en place pour s'en sortir. Et c'est à l'initiative de qui, ça, en fait ?
C'est Noélie Sicot, quand on parle des accompagnants, c'est une personnalité incroyable. On était tout un groupe de personnes à avoir été à côté de La Rochelle où elle a fait de la communication et médiation animale. Mmh. Et on s'est rencontrés là-bas et elle fait donc ce travail-là. Elle forme et du coup, elle a décidé de faire cette conférence justement sur le vivant. Voilà.
D'accord, très bien. Mais écoutez,
c'est régénération.
Super. Écoutez, on vous embrasse, Cécile, et merci d'avoir donné de vos nouvelles. C'était super.
Merci, Olivier. Bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.